Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Allez.
Salut les amis.
Salut Fred.
Alors, ça boum.
Il répond pas, il va faire une blague sur le terrorisme.
Ah oui, non. Ouais, on est très en forme.
Ah, ouais. En forme de quoi?
Non, alors, ça c'est drôle, ouais. C'est excellent.
Bon, écoute Fred, voilà. Tu sais qu'on a une très grande confiance en
D'ailleurs,
toi.
D'ailleurs, on n'est pas loin de penser que t'es le meilleur chroniqueur de cette émission.
Ouais, ouais. Je sais bien.
Mais tu sais quoi?
Bah que je suis là pour compenser la playlist de France Inter.
Et c'est pour ça qu'on a décidé de te mettre dans les florilèges.
Ah cool.
Alors, et je voulais te dire, c'est bientôt la fin des florilèges.
Et pour redémarrer sur de bonnes bases.
Voilà, il faudrait peut-être repenser à certains sujets. Voilà. Tu vois ce qu'on veut dire?
Oui, je vois, vous voulez que j'aille plus loin? Que je balance quoi?
Non, tu sais, parfois ça fait du bien aussi de parler de choses simples.
Voilà, ouais.
Je vois pas.
Mais tu veux faire des chansons où tu te fais pas d'ennemis derrière, par
exemple. Si tu parlais de trucs légers.
Voilà.
Les marguerites, les chatons angora, le lever du soleil.
Voilà, c'est sûr que les marguerites, elles vont pas porter plainte si je dis qu'elles sont plus moches que les coquelicots.
Voilà.
Ou même le sourire d'un enfant.
Oh,
ah ouais, le sourire des enfants.
Voilà.
Sous la soutane des prêtres.
Non, Fred, sois prudent, nous on tient toi.
Oui.
Très bien, je vais faire des chansons pour que les gens ne m'en veuillent pas du tout.
Ah, voilà.
Ouais. Ok, je vais faire une chanson sur les malades d'Alzheimer. Ils m'en voudront pas longtemps.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans les vacances de l'Open Space. Welcome on holidays in the bureau paysager. Un endroit où l'on retrouve d'abord l'économiste Julia Cagé, qui a travaillé sur le financement plus démocratique des campagnes électorales. Avec elle, on verra que les dons aux partis politiques dressent un portrait géographique et social des électeurs. On observe notamment que c'est Paris et Londres qui ont essentiellement permis à Emmanuel Macron de mener campagne. Nous accueillerons ensuite Pierre Ninet, avec qui on parlera poésie, car c'est un outil qui permet aux malades et aux blessés de se reconstruire. Ses bienfaits sont connus depuis longtemps. Aujourd'hui, ils sont mesurés, aussi précisément que le nombre de pieds dans un alexandrin. Pierre Ninet, avec qui on jouera dans un sketch relatif aux gilets jaunes. Bonjour Alex.
Bonjour Charline.
Alors, qui sont les chroniqueurs qui viennent mettre leur grain de sel aujourd'hui?
Une belle équipe, figurez-vous.
Ben
oui, même en florilège, j'ai ça sous la main. On commencera par Thomas VDB avec la fameuse chronique des mini-nuts qui nous avait beaucoup fait rire. Ouais. Et puis le moment Meurice sur le lobby du plastique. Pierre Ninet avait été très attentif. Hippolyte Girardot parlera d'ailleurs du film Sauver ou Périr sur les pompiers de Paris qui était venu défendre Pierre Ninet. Et on terminera par du Frédéric Fromet. Il chantera J'aime ma boîte. Évidemment qu'à France Inter, on aime sa boîte.
Allez, on commence avec de l'économie, mais sympathique, hein, souriante. Allez, c'est parti.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Merci Julia Cagé d'être en notre compagnie. Merci. Vous publiez chez Fayard le prix de la démocratie. Alors le prix de la démocratie, bien sûr, aujourd'hui cette phrase prend un sens particulier. Hein, on replonge dans la thématique sécuritaire qui est aussi le prix de la démocratie. Mais c'est d'économie dont il s'agit aujourd'hui avec vous. Votre livre, il est le fruit d'une longue étude sur le financement des partis politiques dans 10 pays. Sur une période de 50 ans, ce qui nous rend tout ouïe sur vos conclusions. Alors, l'ensemble des citoyens, nous tous, vous dites, nous finançons les préférences politiques des plus riches. Alors, comment est-ce possible? Est-ce que l'injustice sociale, elle commence avec ça, le financement des partis politiques en France?
Oui, elle commence avec ça et en fait, ça se retrouve aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes, où on a tout un ensemble de citoyens qui se sentent plus du tout représentés. Ben, non seulement ils sont pas représentés parce qu'on a un gouvernement qui mène une politique en faveur des plus riches, mais ce qui est assez ironique, c'est que ces citoyens-là, en amont, ont payé finalement pour financer ces préférences politiques
mais
des plus riches.
Ça...
Comment ça se fait? Ben, si vous êtes riche en France aujourd'hui et que vous donnez 7 500 euros à un parti politique, vous ne payez en fait que 2 500 euros. Mmh. Et les 5 000 euros restants sont à la charge de l'ensemble des Français puisque vous bénéficiez d'une réduction d'impôts. Maintenant, si vous êtes au salaire minimum aujourd'hui en France, alors déjà pour commencer, vous n'allez certainement pas donner 7 500 euros à un parti politique parce que ça serait la moitié de votre salaire annuel.
Ah oui.
Donc imaginons que vous fassiez un effort, vous donnez 300 euros. Et ben dans ce cas-là, vous payez 300 euros. Parce que tant pis pour vous, vous avez beau payer énormément d'impôts. Comme il se trouve que vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne bénéficiez pas des réductions d'impôts. Et du coup, on a mis en place un système aujourd'hui en France où on dépense chaque année plus de 60 millions d'euros en cadeaux fiscaux pour les dons des seuls plus favorisés aux partis politiques de leur choix.
Eh oui, qui sont souvent plutôt libéraux-conservateurs, ça ?
Qui sont souvent plutôt libéraux-conservateurs en marche.
Ouais. Dans le... On va en parler justement.
Depuis le décès de Pierre Berger.
Oui, ça va. Oui, sans doute que lui pesait beaucoup, non ?
Bah, il pesait à hauteur de 7 500 euros, sans doute, dans le financement, oui, du Parti, Parti Socialiste.
Alors, il peut donner
heureusement qu'on a quand même quelques personnes qui ont un peu d'argent, qui donnent aux partis plus à gauche économiquement, mais quand même, en moyenne, on voit que ce sont principalement, d'ailleurs, dans tous les pays, les partis de droite qui en bénéficient davantage.
C'est ce que vous expliquez. Normalement, ça doit être une personne, une voix. Et ici, on est plutôt dans un système un euro, une voix.
Oui, en fait, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière de plutocratie. Parce que non seulement ça a un effet, parce qu'on finance en plus ces préférences des plus favorisés, mais l'effet le plus important, c'est que, en fait, du coup, on a des hommes politiques qui partent à la chasse aux chèques. Ils partent à la chasse aux dons. Donc, ça veut dire quoi ? Ils vont faire campagne auprès des plus favorisés. Ils vont faire campagne à Londres, ils vont faire campagne dans les salons parisiens, ils vont faire campagne à New York pour récolter des chèques, pour financer leur campagne électorale. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les riches ont voix au chapitre et les pauvres n'ont plus voix au chapitre. Et ils se font doublement pénaliser parce que cet argent qui est récolté par les partis politiques, ensuite, il sert pendant les campagnes électorales. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en moyenne, plus on dépense pendant une campagne électorale, plus on a de chances de l'emporter au final. Donc finalement, les plus pauvres sont double fois pénalisés et les plus riches ont davantage de voix dans notre plutocratie que les moins favorisés.
Mais donc, si le système fait que la gauche, elle aussi, elle doit courir après des financements privés pour faire une grosse campagne, parce qu'une grosse campagne avec de l'argent, ça permet de gagner de l'avance, c'est là que qu'est la rupture avec l'électorat populaire ? C'est comme ça que ça commence le...
Oui, moi je pense que c'est fondamentalement ce qui permet d'expliquer aujourd'hui l'explosion des populismes et le fait que de plus en plus ces catégories populaires se tournent vers des partis notamment d'extrême droite, parce qu'on a eu une dérive à droite sur les questions économiques des partis traditionnellement de gauche. De ce point de vue-là, il suffit de regarder le cas d'Hillary Clinton aux États-Unis. Je veux dire, le parti démocrate américain sur les questions économiques ne représente plus les classes populaires. Et si on regardait le programme économique d'Hillary Clinton par rapport au programme économique de Trump, il n'y avait pas beaucoup de différence. Et d'ailleurs, Hillary Clinton, on lui a suffisamment reproché ses discours auprès des grandes banques qui étaient des discours rémunérés dont elle a refusé de publier le contenu. C'est pas propre aux États-Unis. Si on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni, Tony Blair, qui était censé être le représentant du Parti travailliste, c'est lui qui a libéralisé, flexibilisé énormément au Royaume-Uni. Pareil pour Matteo Renzi en Italie, et on a vu ce qui s'est passé ensuite. Et donc, en fait, le fait que finalement la gauche, parce que en partie elle va lever de l'argent privé auprès des plus favorisés et abandonner les classes populaires d'un point de vue économique, aujourd'hui, ça a des conséquences très graves et ça explique en partie, un, l'explosion des populismes et deux, la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe.
Quand vous dites ça aux politiques, ils vous répondent quoi ?
Bah, écoutez, pour l'instant, ils m'ont pas beaucoup répondu parce qu'ils sont plutôt dans des querelles et des bisbis pour savoir qui sera le premier parmi les nains pour aller se présenter aux prochaines élections européennes. Mais le jour où on pourra vraiment parler du fond, j'aimerais bien en discuter avec eux. Pour être tout à fait honnête, il y a un problème qui est un problème de système. C'est qu'on permet ça et que finalement, on a laissé se corrompre le jeu politique. Moi, ce que je propose dans le livre en particulier...
Parce qu'il y a des solutions, vous avancez.
C'est, c'est de commencer par baisser le plafond des dons. Aujourd'hui, on dit 7500 euros. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, des commentateurs, vous dites 7500 euros, bon, il n'y a pas vraiment de problème d'argent privé en France, parce que tout le monde peut contribuer 7500 euros. ce qui est relativement étonnant, mais en même temps, si on dépense 200 euros pour chaque déjeuner au restaurant, pourquoi pas ? Donc déjà, il faudrait baisser fortement le plafond des dons. Donc si on avait un plafond à 200 euros, personne ne peut donner plus de 200 euros. Déjà, on mettrait moins le poids sur un certain nombre de citoyens par rapport à la majorité des citoyens.
Puis Philippe Poutou, il pourrait avoir un peu d'argent aussi, par exemple.
Et Philippe Poutou pourrait avoir un peu d'argent, mais moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup d'argent public, pour qu'il n'y ait pas d'argent privé.
Et comment ?
Privé.
Via la feuille d'impôt, vous proposez quelque chose ?
Oui, je propose les bons pour l'égalité démocratique. Donc c'est quoi les bons pour l'égalité démocratique ? C'est qu'on prend toutes les sommes qui sont consacrées aujourd'hui au financement de la démocratie, notamment les réductions fiscales, donc on met fin à ces réductions d'impôts qui ne bénéficient qu'aux plus favorisés, et on alloue le même montant à chaque citoyen, indépendamment de ses revenus. Donc les bons pour l'égalité démocratique, c'est 7 euros pour chaque citoyen. Qu'est-ce que vous faites ? Vous déclarez vos revenus. Et une fois que vous avez déclaré vos revenus, vous avez une seconde étape où vous indiquez au gouvernement, à l'État, le mouvement politique de votre choix auquel vous souhaitez voir allouer vos 7 euros
vous cochez,
d'argent public. Ça a deux avantages par rapport au système actuel. Un, c'est égalitaire. Donc c'est le même euro pour tous les Français. Et là, ça revient un peu vers ce qui devrait être la définition de la démocratie. une personne égale une voix. Et deuxièmement, c'est dynamique, parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le système de financement public de la démocratie en France est figé par intervalle de 5 ans, puisque ce que vous touchez comme financement public, ça dépend de vos résultats aux dernières élections législatives. Ça veut dire quoi, concrètement? Que plus ou moins, pour pouvoir participer aux prochaines élections, il faut mieux avoir gagné les précédentes, sauf si vous êtes en marche et que vous êtes capable de lever suffisamment d'argent privé. Mais si vous êtes les Gilets jaunes, par exemple, et que vous voulez créer un parti politique, vous n'aurez aucun financement public dans le système actuel en France avant 2022. Donc vous avez le temps de mourir trois fois. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Nuit Debout. Donc en fait, il faut dynamiser ce système, et ça, les bons pour l'égalité démocratique le permettent, puisque ça annualise le financement public de la démocratie.
Gabriela Silmi, ça c'est le genre de truc qui vous reste dans la tête, ça, Alex.
Comme Michel Thor. Paf, c'est exactement la réaction.
Allez, revenons-en à nos moutons, ceux de l'économie, avec Julia Cagé. Alors, qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron ? Question intéressante, puisque c'est un tout nouveau parti, et que donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, les financements publics, ils arrivent quand on a été élu. Donc comment fait-on? Et justement, la commission des comptes de campagne a enfin fini d'analyser les 74 000 dons reçus par En Marche pendant la campagne. Alors, il y a la finance londonienne, la City, a donné plus d'argent que les 9 plus grandes villes de province françaises réunies. Les dons à En Marche, c'est essentiellement Paris, Londres, et tout ça loin derrière aussi, il y a les grandes villes. C'est très 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 urbain.
On passe à la proposition de loi du député socio-gauche.
Merci, monsieur le président. Notre proposition de loi vise à régulariser les comptes de campagne pour que les hommes, comme ceux de l'UMD, arrêtent de jouer avec l'argent des Français. En arrêtant de se payer des prostituées. Ou alors qu'ils invitent les copains.
C'est le palmachot. Alors donc, le JDD a publié une cartographie des dons à En Marche pour qu'on comprenne comment le parti s'est financé. Alors il y a beaucoup Londres qui a rassemblé 800 000 euros. Il y a New York bien sûr et il y a Beyrouth. Il y a 18 dons qui viennent du Liban pour 105 000 euros. C'est plus que les sommes versées par les Toulousains et les Rennais réunis. Alors on a expliqué tout à l'heure que pour les Français les plus riches qui donnaient de l'argent à des partis, il y avait une déduction fiscale qui était financée par nous, par les concitoyens. Les dons qui viennent de l'étranger, Julia Cagé, alors ça nous arrange alors? Il y a quoi? Il n'y a pas de défiscalisation? C'est pas nous qui payons? Finalement que la City donne du blé New York, Beyrouth, nous ça... On est contents, là, alors?
Oui, au moins, c'est pas nous qui payons directement, mais en même temps, je veux pas faire une annonce sur votre prochaine actualité, mais ouais. À l'arrivée, quand ensuite les sénateurs macronistes votent l'exit tax, on peut se dire qu'on paie très indirectement.
Ça vient de là. Alors, on dit que c'est un nouveau parti, donc il pouvait pas toucher d'argent public au départ. Mais Emmanuel Macron dit « Chez moi, on ne vit pas du contribuable » quand il a lancé son parti. Vous nous avez expliqué en début d'émission que ben non, c'est fait faux, il y a une déduction fiscale, etc. Mais aussi un nouveau parti, il est quand même obligé de faire des efforts plus que d'efforts que les autres pour aller chercher des fonds privés. J'essaye de me faire un peu l'avocat de Macron, vous avez compris.
Oui, mais non, mais attendez, il y a d'autres candidats dans d'autres pays qui ont fait campagne différemment pour aller chercher des dons privés. Par exemple, Bernie Sanders aux États-Unis, quand lui est allé chercher des dons privés, il a dit je refuserai tous les dons au-dessus de 200 $. Et Bernie Sanders a levé quasiment autant d'argent qu'Hillary Clinton aux États-Unis qu'avec des petits dons en dessous de 200 $, puisqu'il est allé parler à l'ensemble des Américains et qu'il avait des mesures politiques pour l'ensemble des Américains. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas qu'il ait eu de l'argent privé, c'est vrai que de toute façon, il n'avait pas le droit au financement public. C'est la nature de ses dons, et ses dons, ce sont quasiment que des dons en plafond. Donc que des dons à hauteur de 7 500 €. D'ailleurs, on regarde, il y avait dans les Macronics, dans les échanges de mails, on voit les plans de table. Donc il y a les plans de table, le dîner à Londres. Ah, ce dîner-là, ça va être 200 000 €. Tel dîner, ça va être 250 000 €. Donc il a organisé ses soirées en fonction de la valeur de la table. La chaise à table étant de 7 500 €. Donc là, 200 €, c'est même pas le prix du café. Et à l'arrivée, c'est comme ça qu'il s'est financé. Et le problème, c'est que ça a des vraies conséquences. Parce que quand vous faites tous vos dîners de levée de fonds auprès des banquiers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, écoutez, monsieur Macron, il y a une urgence en France, je vous assure, c'est de supprimer l'impôt sur la fortune. Oh, et une fois élu président, faites quoi? Bah, écoutez, vous allez direct à l'urgence.
Vous êtes un peu
redevable. Supprimez l'impôt sur la fortune et dans l'intervalle, vous avez oublié que quand même 5 € sur les APL, c'est pas cool pour la plupart des Français.
Et pour terminer sur ce sujet, cette cartographie finalement des dons, elle nous montre que c'est très 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 urbain. Et donc on comprend aujourd'hui la crise, elle est tout à fait mécanique et logique. C'est-à-dire que si c'est les grandes villes de province, là on voit les principales villes, c'est Lyon, Nice. Lille, Nantes, plus les Français exilés, elle est là la grosse fracture de départ en fait.
Oui, c'est très urbain, puis c'est quand même une fracture de classe, hein, parce qu'à l'arrivée en région parisienne, donc pour la région parisienne, il n'y a pas que des Parisiens qui vivent autour de la place de l'Étoile.
Paris est proche banlieue, c'est 7,4 millions d'euros.
Donc à l'arrivée, c'est quand même une fracture qui est une fracture en termes de plus riches versus les plus pauvres. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qui a été propre à Macron, c'est quelque chose qui a été exacerbé par Macron. Si vous regardez en France aujourd'hui, en moyenne, il y a moins de 1% des Français qui donnent chaque année à un parti politique. Parmi les 0,01% des Français les plus riches, il y en a 10%. Donc c'est déjà un phénomène qui existait avant Macron. Ce sont majoritairement les plus riches qui contribuent à la vie politique. Et là, Macron, il l'a exacerbé, il l'a poussé à sa limite. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça a de vraies conséquences. Parce qu'en fait, quand il y a ensuite des demandes de la part des plus modestes, il n'arrive pas à y répondre. Et il manque profondément d'empathie, il manque de connaissance de la réalité des Français. Le problème, c'est que derrière, il a une Assemblée nationale à son image, qui n'est pas représentative. Il a un gouvernement à son image qui n'est pas représentatif, et ça crée une vraie déconnexion avec la réalité des Français.
Donc on le dit aux Gilets jaunes qui nous écoutent, donnez de l'argent à Emmanuel Macron, comme ça, voilà, hein, il va vous conseiller.
Alex, on va revivre un des meilleurs moments avec Thomas VDB, là.
Mais oui, parce qu'on n'avait pas bien compris l'allocution du président de la République, avec ce qu'il donnait ou non aux Gilets jaunes.
Les 100 balles et un Mars.
Voilà, et ben, on n'est pas loin du Mars, on est au Mini-Nuts.
Mes chers compatriotes, alors quand j'étais petit, moi, ma mère, elle m'achetait des Mini-Nuts. Donc ça, c'est l'allocation qui a commencé. Et donc, faut savoir que quand il y avait un paquet de Mini-Nuts à la maison, nous, on le mangeait en famille, tous devant la télé, on partageait tout le paquet, quoi. Ah, voilà. Alors vous allez bientôt comprendre où je vais en venir. Exactement. Et un jour, je reviens de l'école, moi et ma sœur, elle était restée seule avec ma mère ce jour-là. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ma petite sœur en train de se manger toute seule un gros mini nuts. Ok. Donc je vais voir ma mère, je dis excuse-moi, mais Marion, ma sœur, elle a eu un mini nuts. Je veux un mini nuts moi aussi. Et là, sauf qu'on allait passer à table et tout ça, donc ma mère a dit non, mais allez, il y a plus de nuts. Et moi, je dis quoi? Il y a plus de mini nuts? Et je me dis, ils sont bouffés tous les mini nuts sans moi. Et là, j'ai à ma mère, j'ai donne-moi un mini nuts. Elle me dit mais non, il y a plus de mini nuts. Mais là, je sentais bien qu'elle les avait cachés, que c'était quelque part. Et donc là, je sais pas si je dois en être fier ou si je dois pas avoir honte, mais bon, impression d'injustice totale, je me mets à hurler, et là, je commence à faire des grosses dégradations partout dans la maison. Quoi. Mais là, vraiment, je désingue tout dans la baraque, je renverse la casserole de ratatouille, les rhododendrons, tout niqué à ma mère, je soulève la R25 de mon père dans la cour, je dis à ma mère, alors ils sont où les ménénus? Elle me dit, mais il y a plus de nuts! Et là, je continue à tout tourner dans la maison, et à bout d'un moment, ma mère, elle vient me voir, elle me dit, bon, ben allez, le v'là ton ménénus! Je dis, mais il en restait, en fait! Et ma mère, elle me dit, mais ouais, il en restait. Mais je dis, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? J'ai dit, quand je te l'ai demandé poliment, tu pouvais me le donner avant, en fait. J'aurais pas tout désingué dans la maison. Alors, attention maintenant. Alors, fin de l'allocution. Loin de moi l'idée de comparer les souffrances des gilets jaunes avec l'idée d'un manque de mini-nuts. Mais je pense qu'avec un petit effort d'imagination, on peut voir facilement un rapport entre ce que j'ai ressenti quand ma mère m'a donné le mini-nuts un peu trop tard et ce qu'ont ressenti les gilets jaunes quand Macron, il leur a dit, bon, on veut bien finalement vous donner 100 euros par mois du SMIC en plus. On était tous devant la télé. Mais pourquoi il a pas dit avant, lui? Pourquoi il l'a pas fait avant? Voilà. C'est vrai qu'on en est quand même à l'acte 5 du mouvement des gilets jaunes. Je sais pas si vous imaginez quand même la pièce de théâtre. Pendant les 4 premiers actes, c'est juste des personnages qu'appelle un gars qui vient jamais. Acte 1, acte 1, Emmanuel, le gars il vient pas. Acte 2, il continue, allez, Emmanuel, acte 3, Emmanuel, y'en a marre maintenant. Il commence à tout péter sur le décor et tout. Acte 4, ils sont comme des dingues, oh Emmanuel. Et là, à la fin de l'acte 4, le mec arrive, oui je suis là. Et vous savez, je comprends très bien vos problèmes. Et toi, ah, oui d'accord, mais c'est long quand même. C'est quand même assez long hein, pour le temps d'intervention hein. Hein, on se dit heureusement qu'il travaille pas aux urgences. Macron, il ferait passer une verrue plantaire avant un infarctus. Voilà, parce que c'est vrai que moi, en plus, dans ma famille, c'est le travail de mon père qui payait les mini-nuts. Mais quand tu regardes dans le cas de Macron, c'est lui qui gère tout le stock national de mini-nuts. Le paquet de mini-nuts, normalement, il est à tout le monde. Là, c'est lui qui choisit combien il en donne à chacun. Mais franchement, au niveau répartition, il est pas très bon. T'as les 3/4 de la France qui est en hypoglycémie. Lui donne les mini-nuts à tous les diabétiques. Voilà. Qui en plus ont déjà des armoires cachées à l'étranger, remplies de Bounty, remplies de Twix et de sneakers. Voilà. 4 actes pour finalement donner 100 balles, même pas un Mars, même pas un mini-nuts avec. Alors en plus 100 euros, pardon, mais on se demande d'où sort le montant, comment il a eu l'idée d'un montant aussi rond que 100 euros. En réunion, ils ont dû forcément hésiter entre on file 50 ou 100 balles. Franchement, 50 ou 100 balles. Je pense Macron, quand il donne 100 balles à des gilets jaunes, il a un peu l'impression de donner des étrennes à des éboueurs, c'est sûr, forcément. Mais bon, voilà, je me moque, mais quand même, c'était une belle allocution, je dois dire, ouais. Emmanuel Macron, très bien articulé, vraiment. La mienne aussi, hein, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais la sienne, quand même, aussi bien niveau consonne que voyelle, voilà, tout était bien articulé, toutes les liaisons étaient bien faites. Voilà, tout ça, mesdames et messieurs, grâce à 100 euros. Voilà. Alors, à un moment, c'est vrai qu'il a même dressé la liste de tous les problèmes des Français, toutes les raisons pour lesquelles les Français vont mal. Je l'ai trouvé vraiment très bon pendant ce passage. J'ai même cru qu'il allait sortir un gilet jaune de sous sa table. Il ne l'a pas fait quand même. En tout cas, il a bien compris leurs problèmes. Le seul truc qui reste à faire maintenant, c'est de les résoudre. Hein, voilà, puisque bon, vu que maintenant tout le monde s'est énervé, maintenant il faut bien qu'il s'y mette. Voilà, franchement, il était temps. Merci à tous.
Merci, que ça fait du bien. Thomas VDB, avec Julia Cagé, on va vous proposer un rôle. Eh bien, c'est peut-être votre premier rôle de comédie.
Attention, hein, peut-être pas le dernier. Hein. Vous avez peut-être entendu que Benoît Hamon avait oublié d'adhérer à son propre mouvement, Génération.S. Et il a dit qu'il n'avait pas trop eu le temps, il n'a pas fait gaffe.
Et vous avez travaillé avec lui.
Et vous avez travaillé un petit peu avec lui. Donc on s'est dit, nouvelle équipe de campagne pour les européennes. Charline et vous le reprenez en main parce qu'il est un peu distrait. Guillaume Meurice fait Benoît Hamon. On se lance dans les préparatifs.
Bon, Benoît, ça y est, vous êtes prêt pour les européennes?
Oui, cette fois je suis prêt, là, objectif 7%.
Oh, waouh, super. Ouais.
Et votre programme?
Mon quoi?
Oh non, c'est pas vrai.
La boulette. J'ai pas encore vraiment eu le temps de le faire.
Mais c'est pas possible, vous pouvez pas vous lancer sans programme.
Bon, au pire, vous reprenez les idées de 2017, non? Vous avez pas une idée qui pourrait être utilisée?
Si, je peux reprendre le revenu universel.
Mais oui, ça c'était une idée brillante.
Ah,
c'était la mienne.
Voilà, alors comment vous vouliez financer ce revenu universel?
Eh ben, c'est avec l'ISF.
Ah ouais, mais Macron, il a supprimé l'ISF.
Ah bon? Ah bah ouais, mais si vous me dites rien aussi.
Et sinon, Benoît, au niveau des candidats, vous pensez à qui?
Ah ça, c'est réglé, c'est carré. Moi, je suis candidat pour les européennes.
Hein. Ouais, vous serez tête de liste, mais il faut d'autres candidats avec vous. Est-ce que vous avez une liste?
Oh non.
Vous n'allez pas me dire que vous êtes tout seul?
Bah, d'habitude, oui, je suis tout seul, alors j'ai pas bien réfléchi aux autres. Quoi.
Mais vous avez bien des gens qui vous soutiennent, Benoît.
Bah, au PS.
Enfin, de toute façon, il n'y en a plus de PS alors.
Bah, ça, je le savais. Ça,
ah, ouais,
ça,
ouais, 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 ouais.
Et du coup, dans votre mouvement, vous avez quelques adhérents?
Bah, il y a moi, j'ai même adhéré la semaine dernière. Donc,
non, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Ah, alors ça, on m'a pas dit. Hein.
Bon,
ça, je sais pas.
Non, non, ok. Bon, alors sinon, niveau slogan alors.
Ah, parce qu'il faut. Non, je déconne. Alors là, vous allez être fiers de moi.
Ah, ça, on verra.
Alors,
on verra.
Attention, le slogan, ensemble, tout devient possible.
Ah non, 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 ça vous pouvez pas.
Mais pourquoi?
Mais enfin, c'était le slogan de Nicolas Sarkozy.
Ah ben ouais, mais si personne me dit rien.
Ah. Oui.
Oui, bonjour, je suis le taxi garé en bas.
Ah oui, et donc
Et ben, j'ai déposé Monsieur Hamon, il m'a dit qu'il revenait dans 3 minutes, mais là ça fait plus de 2 ans.
Oh merde, oh la boulette.
Ouais, okay, ah, oui. C'est bon, allez-y alors. Ouais.
Prenez soin de vous, hein, c'est important, un dirigeant qui sait où il va.
Ah bah ça je le sais, moi je vais chez moi là.
Oui, très bien, mais bon.
Mais Benoît.
Oui.
Il faut donner l'adresse au monsieur.
Ah bah ah oui, bah ça, bah c'est vers, c'est par là quoi.
Non mais tellement, il est pas possible, moi je sais pas comment ça va être quand il va diriger la France quoi.
La quoi?
C'est le moment de la chronique objectivité, je pense qu'on peut l'appeler comme ça.
Bah surtout quand le sujet, c'est le lobby du plastique.
Et ce sera qui?
Guillaume Meurice.
Ah bah oui, pardon, évidemment.
Macron va créer un haut conseil au climat. Hein, c'est-à-dire que le gars, il a oublié qu'il avait un ministre de l'écologie quand même. Bon, en même temps, c'est de Rugy. Hein, donc je suis sûr que même lui oublie qu'il existe. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fout de Rugy? Ah, c'est moi. Hein, c'est vrai que Pierre, si vous adaptez un jour au Cinoche l'être et le néant, pour le néant, pas besoin de casting, on a de Rugy. Alors aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement du plastique. Parce qu'on en retrouve pas seulement dans les pommettes des stars du Festival de Cannes, on en retrouve dans le ventre des animaux, hein, notamment les animaux marins. On parle même d'un continent plastique, un continent en deux mots, hein, je parle pas de Bouteflika. Et les industriels du plastique, ils se réunissaient ce matin. Oh là là, la coïncidence. Je suis donc allé les voir, c'était le grand rendez-vous du packaging All for Pack. Et dès l'entrée, on est quand même bien accueillis avec le sponsor, regardez ce beau sac, Emballage Magazine, ah bah, qu'on ne lit que trop peu, Emballage Magazine. À mon avis, il y a d'excellentes brèves dans Emballage Magazine, c'est un très bon sujet 3. Et voilà, ça te donne, voilà, il te donne un beau sac en plastique qui va faire donc le régal d'un dauphin, hein, on le jette. Et bien, la filière plastique, elle essaye d'évoluer vers plus d'écologie, même si certains disent que non.
Si, on essaie quand même d'évoluer sur les choses, quoi. Mais c'est vrai que bon.
Alors, comment vous évoluez?
On essaye d'évoluer, enfin, on fait avec ce qu'il y a, quoi.
Voilà. Alors, plus concrètement?
Je sais pas du tout, je peux pas vous répondre là-dessus. Hein.
Bon, en tout cas, vous essayez d'évoluer.
On essaye d'évoluer, exactement.
Voilà, mais attendez, parce que vous êtes marrant, avant d'évoluer, il faut essayer d'évoluer. Hein, on n'évolue pas comme ça, il faut évoluer d'abord vers l'évolution. Hein, ça, c'est technique. Donc là, on avait affaire au Darwin du polymère. Mais des évolutions, il y en a quand même au rendez-vous de l'emballage.
C'est un nouveau concept, en fait, qui a le mérite en plus d'être un peu écologique, puisque autour des paquets de bouteilles, on met ce qu'on appelle des fardeaux, on met un film. Ça, c'est une filmeuse de bouteilles.
D'accord. Et ça, c'est écologique, ça, de mettre un film?
Ça reste du plastique.
Voilà, ça reste du plastique. Donc là, on parle d'un film plastique autour de bouteilles en plastique. Film plastique, hein, pas film de Fabien Antoniente, parce que les deux font des dégâts, hein, mais c'est pas les mêmes choses. Bon, alors ça reste soft. Allons voir les compotes pour bébé.
Il y a le produit que le bébé mange à l'intérieur.
Ouais.
Le pot, c'est du packaging.
C'est du plastique.
Le pack qui regroupe les deux pots, c'est du packaging.
Ouais, c'est du plastique encore.
C'est encore du packaging. On entoure les palettes avec du film...
plastique.
C'est le fan. C'est encore du packaging.
C'est encore du plastique.
Voilà, donc pour que la compote... qui est là, arrive jusqu'à la bouche du bébé, il y a à peu près 7 ou 8 couches de packaging.
Eh ben bravo les bébés! Ça va, on se fait pas chier! 8 couches de packaging, sans compter les pampers, ça en fait des couches, saloperie de gosse! Alors ces couches de packaging, est-ce qu'on pourrait pas en enlever, tout simplement?
Aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est que les gens sont beaucoup plus intéressés par le prix, le coût.
Mais justement, si on enlevait du packaging, on gagnerait peut-être en prix?
Là, faut demander aux industriels.
Ben vous êtes un industriel.
On fabrique des machines qu'on vend aux industriels.
Ah, chat perché, lui, il fait juste vendre les machines qui mettent du plastique partout. Hein, c'est comme les gens qui fabriquent des bombes à fragmentation. Hein, c'est quand même pas de leur faute si les gens les utilisent pas pour faire chauffer les nouilles. Bon, alors allons voir un autre industriel avec une question toute bête.
Est-ce qu'il faudrait taxer le plastique aujourd'hui?
Alors ça, oui, c'est vraiment d'actualité.
Ben oui. Quel est votre avis, vous?
Je vais rester neutre.
Il faut préserver le business quand même.
Ah ben, je voudrais quand même vendre encore un peu de machines.
Ah ben voilà, c'est peut-être ça le problème. Faut bien vivre. Alors, pour défendre les entreprises du plastique, bah, y a un lobby, hein, comme on dit, notamment Elipso, les représentants des entreprises du plastique et de l'emballage. Alors, j'ai demandé à son délégué général, Emmanuel Guichard, si on consommait moins de plastique, est-ce qu'il n'y en aurait pas moins dans la nature?
Alors, si on consommait moins de plastique, est-ce qu'il y en aurait moins dans la nature? Pas forcément, puisque ce qui est vraiment important, c'est que le déchet ne se retrouve pas dans la nature.
Si... Oui, mais mathématiquement. S'il y avait moins de plastique en circulation dans le monde, est-ce qu'il n'y en aurait quand même pas moins qui traînerait un peu partout ?
Alors, moins, par exemple, c'est on peut aussi faire des choses plus légères. Donc, si on fait des choses plus légères...
Oui, mais c'est pas bien ma question, ça.
Votre question, c'est s'il y avait moins d'objets au total.
Ouais.
Non, pas forcément.
Bon, bah voilà, voilà, on est fixé. Oui, hein. Donc, on peut continuer à produire du plastique par milliards de tonnes. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on en retrouve partout. C'est ce qu'on appelle un hasard. Alex dirait, c'est pas de bol. Voilà. Bah, alors, d'ailleurs, le lobby du plastique est très écolo.
Alors, par exemple, là, vous avez une bouteille. Alors, c'est pour faire de l'huile de moteur. Eh bien, cet emballage d'huile de moteur et d'emballage plastique, bah, il contient 50% de matière recyclée.
Ouais, c'est de l'huile de moteur totale.
Bah oui.
Oui, voilà, de l'huile de moteur totale dans une bouteille en plastique, 50% recyclée. C'est un beau symbole, là, je trouve, de là où on en est. Quand je vous dis que ça évolue, hein, vivement les fûts d'uranium en coton bio, les centrales à charbon entièrement en tofu. Hein. On a déjà, chez les industriels et au gouvernement, des écolos en carton.
Le soir, déplie ses voiles sombres. Enveloppe les toits, les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés, au fond de nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, des perdres silencieux. Au fond de nous, l'étincelle dans le cas orageux, cet éclair dangereux des héros silencieux.
C'était Étienne Dao, l'étincelle.
Ah, le chanteur Étienne Dao.
On change de partenaire, on va poursuivre cette émission avec Pierre Ninet.
Ben oui, c'est vous qui faites une bonne affaire sur le partenaire cette fois-ci.
Bienvenue Pierre Ninet.
Merci.
Nous sommes heureux de vous accueillir, d'autant plus pour ce film qui s'appelle Sauver ou Périr, film de Frédéric Tellier, où vous jouez notamment avec Anaïs de Moustier, Chloé Stéphanie ou Samy Boisgila, entre autres. Vous êtes Franck, un jeune sapeur-pompier à Paris, ambitieux, jeune papa de jumelles qui vit à la caserne. Voilà, c'est la vie de famille là-bas. Il réussit le concours, il est promu et sur son premier feu comme chef, un feu extrêmement grave dans un entrepôt. Pour sauver ses hommes, il se sacrifie, il est gravement brûlé, notamment au visage. Voilà pour le début du film et le basculement. C'est l'histoire d'une reconstruction,
ouais.
Un thème que vous dites universel, car là vous êtes grand brûlé, mais la reconstruction pour les malades, les accidentés, mm-hmm. etc., c'est un thème tout à fait universel. C'est difficile de s'empêcher de voir un parallèle un peu avec la chambre des officiers, mmh. Les soldats de la guerre 14 et les gueules cassées. Votre personnage, dans le fond, est une gueule cassée.
Oui. Oui, oui, complètement. Oui, c'est la question de l'identité qui est au cœur vraiment du film que voulait faire Frédéric Tellier, le réalisateur. Depuis le début, moi, il m'a dit, je veux faire une grande histoire d'amour à l'épreuve de la vie, à l'épreuve de choses, de la fragilité de l'existence humaine, et en même temps, une quête d'identité qui passe à travers des choses que moi, je trouve extrêmement cinématographiques. La question très profonde de se dire, qui est-on? Et puis de se dire, qui est-on quand on se reconnaît plus dans le miroir physiquement, très, très concrètement, et c'est une thématique que moi j'adore, qui parcourt le cinéma, de Elephant Man à Frankenstein, la monstruosité, l'héroïsme aussi dans la première partie du film avec les pompiers qu'on a beaucoup fréquenté pour préparer le film. Donc il y avait un peu tout ça, et effectivement, comme vous l'avez dit, sur la reconstruction.
À la différence dans, par rapport à la Chambre des officiers, c'est qu'ici, le film porte aussi beaucoup sur le choc que ça produit dans la famille,
oui.
La cellule familiale bouleversée, l'entourage, le fait que vous aussi, vous puissiez vous reconstruire grâce à cette famille. C'est aussi tout cet aspect-là qui est sous-jacent dans le film.
Oui, complètement. C'est aussi ce que j'aime bien dans ce qu'il a fait. C'était l'idée de pas montrer tout ce qu'on voit toujours d'habitude sur les pompiers, pas montrer ce qu'on voit toujours d'habitude sur le côté, il y a un accident, il y a une victime, comment cette victime, elle le vit. Alors évidemment, le film, c'est ça, mais c'est aussi, en fait, il y a des victimes collatérales et un petit ou un grand accident, une petite ou une grande épreuve dans la vie, on en a tous connu, on va tous en connaître. Mm-hmm. En fait, il y a la première personne évidente qui est touchée. Puis après, il y a aussi un cercle autour, le conjoint, la conjointe, les familles, les enfants. Et là, c'est le cas. On voit comment Franck va composer avec ça, va devoir re-rencontrer sa femme presque. Ils doivent se redéfinir en tant que couple complètement, profondément. Et voilà. Et moi, j'étais super heureux de faire ça avec Anaïs de Moustier, que je trouve extraordinaire là-dedans dans le film. Justement, un rôle qui est pas évident et qui est quelqu'un d'un coup qui dit, en fait, moi aussi, je souffre. Moi aussi, j'ai des doutes et c'est légitime d'en avoir.
Alex,
il y a deux rôles à jouer parce qu'il y a l'avant et l'après. Et dans l'avant, vous jouez quelqu'un de normal, ce qui doit pas être si évident que ça.
Un héros même. Hein.
Oui, mais il l'est pas encore vraiment à ce moment-là. Il est chez lui à la maison, il gère sa femme, sa fille.
Il est quand même pompier, c'est déjà héroïque.
J'entends bien.
Mais c'est intéressant.
Mais après, il y a vraiment quelqu'un d'anormal à jouer. Et donc, comment vous avez bossé la différence? Déjà, jouer quelqu'un de normal. Quand on travaille Yves Saint Laurent, on joue pas quelqu'un de normal. Ici, vous avez dû faire ça.
C'est vrai que moi, je cherche des rôles qui sont loin de moi, qui sont des gens que je peux presque ne pas comprendre d'emblée. Moi, j'aime bien l'idée de comprendre quelqu'un que je suis pas du tout. Je trouve que c'est une démarche qu'on fait pas beaucoup dans la société, finalement, d'essayer de comprendre quelqu'un. A priori, on se dit, cette vie-là, je la connais pas du tout, c'est très loin de moi, voilà. Évidemment, l'intérêt pour moi, c'est de faire ce chemin entre moi et le personnage qui me sépare grandement de cette personne. Mais je suis d'accord, il y a deux héros dans le film, en fait. Et en fait, derrière chaque personnage, presque, Frédéric Tellier a caché un héros. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que, le message, c'est de se dire, en fait, on peut tous être des héros du quotidien, entre guillemets, on peut tous être sauveteurs de l'autre si on le veut, et on peut tous être victimes aussi. En une seconde, on peut basculer dans le camp de ceux qui sont abîmés, de ceux qui sont fragilisés, vivre la perte de quelqu'un, une maladie, petite ou grande, peu importe, c'est une épreuve de toutes les façons. Mais je suis d'accord sur le fait que vous ne soyez pas d'accord.
Vous êtes un type sympa.
En plus, je joue un diplomate dans mon prochain film.
Il est très macroniste.
Non, mais je veux dire, moi aussi, je pense qu'il y a deux héros dans le film, mais on peut s'attacher plus à l'un, plus à l'autre, on peut comprendre les deux. Il y a un pompier, héros du quotidien, évident, entre guillemets, même si je pense qu'on les redécouvre dans le film. Et puis après, il y a cet homme brisé qui, en fait, d'un coup, va avoir peut-être encore plus conscience de l'essentiel, plus conscience du fait que des grandes choses de la vie se cachent dans des petites choses qu'il voyait peut-être pas avant. Donc là, il y a un second héros qui arrive, effectivement.
Sur un aspect plus anecdotique, qui en même temps, comme on dit, ne l'est pas, c'est que vous avez suivi quand même les pompiers sur de nombreuses interventions. C'est un rôle que vous avez beaucoup travaillé, même physiquement. Et vous avez suivi, pour comprendre comment ça fonctionnait, sur des théâtres d'intervention, donc des choses douloureuses aussi. Et réel, ça n'a jamais troublé les interventions parce que vous êtes quand même Pierre Ninet. Quand il y a un accident et que les pompiers arrivent et qu'il y a Pierre Ninet, je sais pas si j'aurais totalement confiance.
Les gens vont beaucoup mieux d'un seul coup. Un selfie.
Comment est-ce qu'on épouse leur travail pour aller les observer sans troubler les choses, parce que quand même vous êtes très reconnaissable.
Mais on rigolait beaucoup là-dessus parce que j'avais un formateur qui était le caporal chef Badi, et je lui disais, le pire truc qui pourrait arriver, c'est qu'un mec me reconnaisse juste avant de mourir et me dise, j'ai détesté Yves Saint Laurent. Et que ces derniers mots soient vraiment juste pour me dire qu'il a détesté ma filmographie. Donc on a eu des situations, pas celle-là, mais on a eu des situations de mecs avec la tête en sang qui disaient c'est un acteur et tout. Enfin bon, on a eu des situations un peu cocasses, alors que j'étais vraiment les cheveux rasés, en tenue, dans le camion, que je me faisais le plus discret possible, évidemment, parce que le but c'était qu'il travaille bien. Moi j'étais juste un observateur.
Comme Alexandre Benalla, quoi. Qui préparait son rôle pour être policier.
Ouais, j'étais plus en observation que ça.
Tiens, si on passait à Hippolyte Girardot, qui a regardé le film aussi Sauver ou Périr de Frédéric Tellier, qui sort en salle mercredi.
Tout à fait. Cher Pierre, je suis un peu déçu en vous voyant. Non, ne vous méprenez pas, vous n'êtes pas décevant en général. Pour le verdict, on attendra le sketch. Et ça, c'est histoire de vous mettre un peu de la pression. Non, moi, si je suis déçu, c'est parce que vous n'êtes pas torse nu.
Oui.
Enfin, oui, quand même. Mais non, mais c'est la pleine période des calendriers des pompiers. Et ces dernières années, ces calendriers, on les attend sans pouvoir dissimuler une vraie excitation, quoi, quand même. Ces calendriers sont aujourd'hui un prétexte à de très belles images d'abdominaux huilés, de triceps, biceps, pectoraux carrément bandants. Le pompier en devient un véritable fétiche érotique. Et dans le film, vous nous faites quand même quelques tractions en appartement, je dois le dire, qui nous montrent ce que votre torse pleine page lui donnait. passez-moi l'expression, Pierre, mais vous auriez mis le feu. Votre investissement physique dans ce rôle est impressionnant, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Votre dévouement au rôle, votre sincère respect pour le corps des sapeurs, le corps constitué, je veux dire, comme on dit, le corps diplomatique, et en jouer le rôle de Romain Gary, je sais que vous connaissez ce terme, force la nôtre d'admiration... Tant vous y mettez du cœur et de la loyauté, voilà. Comme le film, d'ailleurs, qui respecte ce qu'un tel film demande. Fred Tellier, donc le réalisateur, sait très bien raconter le feu de l'action, on en a parlé à l'instant. Anaïs de Moustier, avec ses seins, sait très bien raconter la tendresse, j'en mettrai ma main au feu. Et quant à votre personnage, il incarne la douleur, l'abnégation, la souffrance christique, grâce à votre talent, car oui, Pierre, vous avez le feu sacré. Le pompier est animé de ce qu'on appelle l'esprit de sacrifice, qui est une qualité devenue rare, à moins que l'on considère que renoncer à un deuxième gâteau à la crème pour Alex soit de même nature, évidemment. Et cet esprit de sacrifice tient en un slogan, sauver ou périr. Ce qui vous arrive, non à vous, mais à votre personnage, sans dévoiler les détails, en sauvant, vous périssez, ou presque. Franck, votre personnage ne sait plus comment vivre avec ce corps qui était son instrument de gloire, et je repense d'ailleurs au calendrier par là, et qui est devenu aujourd'hui, à ce moment-là, le masque honteux d'un ancien héros. Il se consume à petit feu. C'est beau, mais c'est tragique. Oui, c'est surtout tragique. Comment vivre quand on a perdu sa raison de vivre? Et même si le beau visage de Chloé Stéphanie nous dit « pleurez pas », vous n'avez pas encore conscience des ressources que vous avez. Vous allez vous en sortir, je vous le promets. Faites-nous confiance. On ne mettrait quand même pas sa main au feu que la vie tienne cette promesse. Pas si facile de ranimer la flamme tout de même. Parce que dans le genre pipeau, moi je me souviens d'un truc, ça m'a fait penser. Je me souviens de cette phrase prononcée par Jacques Chirac au sommet de la Terre. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était en 2002. Bah, il a bien fait de le dire, parce que maintenant, ça va quand même beaucoup mieux, faut le savoir. Hein, on a bien éteint le feu, on respire mieux, n'est-ce pas? Moi, j'ai le sentiment qu'on s'est bien reconstruit, voilà, on a eu un peu un gros coup de chaud, quoi, mais on a compris la leçon, et qu'aujourd'hui, en 2018, la planète va vraiment beaucoup mieux, que la maison brûle quand même beaucoup moins. Non. D'ailleurs, tout le monde a des gourdes ici, tout va bien. En plus, le slogan de notre ex-président, il l'a piqué à un groupe de rock australien, car Chirac était gros fan de Mad Max. Ah, c'est quand même le premier film gilet jaune de l'histoire, faut le savoir. Et de rock australien, voilà. Et notamment de ce groupe qui avait écrit une chanson qui disait « Comment peut-on dormir alors que nos lits brûlent ?» C'est marrant, nos lits brûlent. Et c'était en 1987. On pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenus. Alors les gars, si on veut pas périr, faut vite se sauver la vie. Et maintenant
merci, Pauline Girardot.
C'était le coming out de
hommage au talent de Pierre Ninet et aux sapeurs-pompiers et à l'esprit de sacrifice, comme vous dites.
Franchement, ouais.
On va passer au sujet, parce que c'est la poésie, ce serait dommage de s'en priver. Les bienfaits psychiques de la poésie, le haïku apollinaire ou les alexandrins sont entrés à l'hôpital. Ces bienfaits sont reconnus depuis longtemps, mais aujourd'hui ils sont mesurés. La poésie aide notamment à mettre des mots sur la maladie, la reconstruction et parfois à sortir du déni. Et puis déjà la poésie, bah, c'est bien connu, ça apaise.
Écoute un peu ton cœur, il t'apprend la tendresse. Que désire ton âme de la délicatesse.
C'est les inconnus, bien sûr, je la connais par cœur. Pierre Ninet, est-ce que la poésie vous a déjà consolé, voire sauvé ou guéri, accompagné du moins?
Oui, je pense. Moi, je suis pas un gros lecteur de poésie, mais j'ai étudié ça un peu comme tout le monde au lycée, sauf que je pense que j'avais plus d'affinité que d'autres élèves et j'aimais beaucoup ça. Après, je pense que... Enfin, pour moi, les alexandrins, c'est aussi de la poésie, donc j'ai plus fait du théâtre et je suis très sensible à ça. On a beaucoup parlé sur ce film-là, Sauver ou périr, des fleurs du mal, de Baudelaire. Voilà, c'est un des grands sujets du film aussi, c'est comment l'art peut nous sauver. Franck, dans le film, après son accident, va aussi à travers des masques qu'il va se créer lui-même, la peinture, la musique, il va jouer du xylophone, enfin voilà, sans vendre tout le film.
Il regarde des tableaux d'Ansor.
Oui, tout à fait, tableaux d'Ansor, voilà, qui est un peintre belge, et il va va s'inspirer de ça, il va trouver un salut dans l'art. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je sais qu'au Canada, ils ont commencé à rembourser, la sécurité sociale rembourse maintenant des visites de musées prescrites par les médecins. Je trouve ça une très belle idée. Et au-delà d'être belle, en plus, je suis persuadé de son utilité.
Vous, si vous deviez un jour vous reconstruire ou avoir une période de latence, est-ce que vous pourriez imaginer ça sans texte, sans poésie, sans l'art?
Non, mais bon, après, vous demandez ça à un artiste, donc je disais oui, ça serait
vraiment... Mais dans quoi coup, vous,
c'est comme dans, le mec du dans, plastique, il dirait qu'il faut produire moins de plastique.
Dans quoi vous pourriez vous réfugier de façon corps et âme?
La musique. Ah, moi, j'aurais adoré faire de la musique. Je trouve que c'est vraiment la quintessence de la catharsis, des sentiments, de l'émotion. Je trouve ça extraordinaire. Donc moi, la musique, je m'en sers beaucoup quand je tourne des films. J'ai toujours des playlists en fonction des personnages ou des films que je travaille. Et ça, c'est, je pourrais pas me passer de la musique. Non.
Et votre personnage, il a une forme de poésie aussi quand il est en pleine reconstruction et qu'il ne peut pas parler pendant des mois et des mois. Il y a quelques monologues dans le film qui sont assez prenants. Et là, il y a une forme de. Est-ce que pour un acteur, il y a une forme de poésie à dire ces choses-là qui sont très fortes, qui sont.
Oui, complètement. En plus, j'étais très très sensible à la façon, enfin à l'écriture de Frédéric Tellier, qui lui adore la poésie et qui, je trouve, a beaucoup de délicatesse, de pudeur et de poésie. Dans ses dialogues et dans les scènes. Donc ça, c'est génial pour un acteur de recevoir un scénario. On est déjà bouleversé par les mots qu'on va devoir dire. On entend déjà la musique, on a envie de la jouer. Ça, c'est génial.
Pierre Ninet, ça vous dirait de jouer avec nous?
Je vais filer, moi.
C'est surtout à nous que ça dit de jouer avec
vous. J'écoute votre émission des fois et je me dis toujours, ah tiens, ça, je le ferais vraiment pas avec plaisir. C'est nickel.
Vous rigolez. On a pris exemple sur casting. On avait adoré, évidemment, cette série où vous faisiez des castings de type de films. Ici, casting parce qu'il faut trouver un porte-parole au gilet jaune. Et on s'est dit, voilà, c'est le moment. Charline est directrice de casting et vous allez revenir plusieurs fois avec Guillaume, notamment. On y va tout de suite.
Bonjour.
Oh, bonjour.
Alors, dites-moi pourquoi on vous choisirait en tant que porte-parole des Gilets jaunes.
Oh, rage, oh, désespoir, oh, gilet trop jaune, il n'y a donc tant vécu que pour cette Macronie. C'est pourquoi, contre elle, je me veux porte-parole pour jeter de l'espoir et un peu de vitriol.
Oui, très bien. Et quelles seront vos priorités en tant que porte-parole?
Que l'essence plonge enfin, que le diesel s'enterre sans que jamais ne soit réélu Jupiter.
Ah non, beaucoup trop de drames dans le style, on vous rappellera. Hein.
Salut mes petites beautés. Alors, vous cherchez un porte-parole d'Arca?
D'Arca?
D'Arca, ma chérie, on va se foutre de ces bordels. Je vous l'annonce tout de suite, en plus des gilets jaunes, on va se foutre des nouilles dans le slip, ça va être la folie.
Ah non, merci monsieur Hanouna, ça ira, merci. Alors dites-moi, comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Gilles.
Ah ouais, très drôle, vous voulez venir avec...
Avec John, pour faire Gilet John. Gilet John.
Elle est excellente.
Merci, ouais, je l'ai trouvé sur internet. Ouais.
Voilà, qu'est-ce que vous proposez en tant que porte-parole du groupe?
Eh ben voilà, en fait on va faire une alliance avec les bonnets rouges, et comme ça on sera habillés pour l'hiver, si tu vois ce que je veux dire.
Super, oui. Je vous proposerai pour Camping 4 alors. Hein.
Ouais. Sinon, mes petites beautés, je vous propose de rebaptiser les Gilets jaunes en les appelant les Babas jaunes. Ça claque comme nom.
Non, monsieur Hanouna, j'ai dit non, ça va, allez hop, au suivant. Ah ouais, donc là vous êtes carrément venu à deux, ouais. Là.
Ouais. Ouais. Alors là je suis venu avec mon camarade. Ouais. Je propose qu'on soit des porte-paroles musicaux en fait.
Ouais. On est les gilets jaunes de Rochefort.
Nous fumons tous les deux choqués par le prix de l'essence. Quant à l'écologie, ça on s'en balance.
C'est vrai que c'est facile d'être un ours polaire. Ils ne devront jamais faire le plein d'une Chrysler.
Bon, j'en peux plus là. Allez, un dernier candidat. Alors je vous préviens, on recherche un porte-parole simple, sobre, capable de rassembler et d'unir tous les courants des Gilets jaunes.
Hein. Ouais, non, je vois l'idée, mais je la sens pas.
Comme on arrive à la fin de cette émission, Alex, il y a notre visiteur de fin d'émission.
Bah, c'est Frédéric Fromer cette semaine et il va encore nous chanter des chansons. C'est J'aime ma boîte aujourd'hui.
Oh oui, j'aime. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime. L'entreprise, quand elle me sodomise. J'aime mon patron, son chiffre d'affaires. J'aime quand le pognon va aux actionnaires. J'aime quand ça licencie, bien que bénéficiaire. J'aime plus ma boîte, ouh, qu'un gars chez Tupperware. J'aime. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime. J'aime l'usine avec de la vaseline. J'aime l'open space, les réunions. J'aime serrer les fesses devant les chiffaillons. J'aime le team building, les process up to date. Tout est à zap, zap, zap. Ouh, soyons tous corporate. J'aime, 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 j'aime. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime, 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 j'aime. La multinationale, j'aime quand ça fait mal. Vos capitaux, mes CDD, j'aime les plans sociaux pour dire qu'on est viré. Le chantage à l'emploi, les efforts tu comprends pour sauver la boîte ouh, et son chef incompétent. J'aime, 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 j'aime. J'aime ma boîte, j'aime qu'on m'exploite. Oh oui, j'aime, 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 j'aime. La start-up avec ses heures sup. Il y a une autre boîte faite de quatre planches où je file tout droit en bossant le dimanche, la nuit, les jours fériés. Peut-être jamais retraité pour un boulot de merde, merde, merde. Ouh, combien devrais-je chanter. J'aime, 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 j'aime l'esclavage.
C'est la fin de cet épisode trépidant des vacances de l'Open Space. Ça vous plaît, Alex ?
Il y en a encore un autre demain.
Bien sûr, il y a un suspense de dingue.
Et quel est le casting ?
Suspense avec le pianiste Chili Gonzalez et le primatologue Franz De Waal.
Mais dites donc, c'est international cette émission.
Complètement. Allez, demain. À demain.